20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
À toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de 20 minutes avant la fin du monde. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur une ressource énergétique inépuisable et propre, le vent, et donc sur les éoliennes qui permettent de produire de l'électricité à partir de cette ressource naturelle. Alors qu'elles avaient le vent en poupe en France à la fin des années 90, la donne a bien changé. En 30 ans, les éoliennes, symbole alors d'une énergie propre, sont devenues, selon leurs détracteurs, des monstres qui défigurent nos paysages et saccagent la biodiversité. Et cette opposition, elle n'a rien d'anodine, juste un petit chiffre dès l'introduction. 70% des autorisations délivrées en France pour la construction d'éoliennes font l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs. Nous allons donc essayer de comprendre d'où vient cette opposition et d'examiner les critiques adressées à l'éolien. En effet, est-ce que les éoliennes vont vraiment sauver le climat? Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée? Et pour y répondre, un panel de stars, Antoine.
Bonjour tout le monde.
Sonia.
Salut à tous, c'est toutes.
Et Rémi.
Bonjour.
Et pour commencer, une idée, vous demandez, c'est quoi votre relation avec les éoliennes? Est-elle charnelle?
Charnelle, mais dans ce cas-là, c'est plutôt charnelle à distance, car ma relation aux éoliennes est lointaine. J'habite à Paris, en ville. Il n'y a pas d'éoliennes sur le toit de mon immeuble ni sur celui de mes voisins, et donc je vois bien sûr des éoliennes quand je me déplace, quand je prends le train, etc. Voilà, toutes ces éoliennes alignées, c'est toujours assez impressionnant, mais voilà, faut savoir que ma parole là-dessus est située, je n'ai pas d'éoliennes en face de chez moi.
Sonia ?
Alors moi, ça a assez évolué, comme tu le disais dans ton introduction d'ailleurs. Au départ, j'avais une image très positive, très écolo des éoliennes. Quand j'en voyais, c'était plutôt dans des pays du Nordique, avec des éoliennes parfois offshore que tu vois au loin. Et pour moi, c'était l'image du progrès et de l'écologie. Et puis plus récemment, j'ai passé pas mal de temps en Aveyron et là, j'ai vu des gens que j'estime et qui ont participé à des projets d'opposition assez forts à l'implantation d'éoliennes pour des raisons que je jugeais crédibles. Et voilà, on y reviendra, je pense, un peu plus tard dans l'épisode, mais je trouve que ces critiques peuvent être entendables et qu'il faut comprendre tous ces mécanismes globaux, la manière dont elles sont implantées pour pouvoir en juger.
Rémi ?
Alors moi, j'ai un rapport méditatif, parce qu'en fait, mes parents habitent en Beauce, et donc quand vous prenez le train depuis Paris pour aller à Orléans, en fait, vous traversez effectivement des champs d'éoliennes, donc c'est très impressionnant, et ça souligne un peu quelque chose qu'on dira plus tard dans l'épisode, à savoir qu'il y a un des problèmes, c'est qu'il y a des régions qu'on accueille beaucoup plus que d'autres, quoi. Et en même temps, vous voyez, en fait, les vestiges de l'aérotrain, qui était une infrastructure prévue pour être intégrée dans les lignes ferroviaires, donc c'était un train en hauteur, qui est désaffecté depuis. Et donc vous avez une infrastructure massive désaffectée, et des éoliennes dont on se demande si un jour elles seront aussi désaffectées, donc ça crée une espèce de rapport au paysage et à nos infrastructures, voilà. Et toi, Sarah ?
Écoutez, moi, un peu comme Antoine, je me place dans ma position de Parisienne qui vais voir les éoliennes quand je prends le train.
Ça, c'est parce que t'as pas vu les plans, Sarah, des éoliennes que je prévois d'installer sur le toit de ton immeuble.
Voilà. Bon, écoute, pourquoi pas, hein.
C'est pour la bonne cause.
Et je rejoins aussi un peu Rémi, plutôt quelque chose un peu de méditatif quand tu es dans le train et que tu vois au loin ces éoliennes tourner, il y a quelque chose d'assez lancinant, etc. Donc voilà, peut-être pour commencer, dire que ça date pas d'hier d'utiliser le vent comme énergie.
Et non, c'est même assez ancien, puisque dès l'an 700 après Jésus-Christ, nous avons l'utilisation des premières énergies éoliennes, qui sont en fait tout simplement des moulins à vent. Et on les trouve à cette époque en Perse, donc c'est l'actuel Iran, et ces moulins à vent, ils servent à moudre le grain et à pomper l'eau.
Oui, il faut signaler que le nom du podcast a changé, c'est 2000 minutes avant la fin du monde, un podcast qui commence vraiment
par l'antiquité,
vers l'an 700. Installez-vous, mettez un plaid sur les genoux, faites-vous une tisane, enfin ça va durer quoi,
pour 2-3 heures, c'est tout. Non mais voilà, et ensuite dire que ce moulin à vent il va se répandre dans toute l'Europe, surtout à partir du 12e siècle, et qu'il va y avoir différents usages, par exemple presser l'huile, scier le bois, etc. Et que c'est à la fin du 19e qu'on va avoir les premières éoliennes qui vont être créées pour générer véritablement de l'électricité.
Et c'est surtout au 20e siècle qu'elles se développent, et même avec une accélération à la fin du XXe siècle, alors qu'on se dit qu'il va falloir ralentir sous les énergies fossiles pour cause de réchauffement climatique.
Oui, il faut dire aussi un mot du contexte international. Hein. Dans les années 1970, il y a non pas un, mais deux chocs pétroliers. L'un parce que l'OPEP a imposé un embargo pétrolier aux pays occidentaux en raison de leur soutien à Israël, et l'autre à la suite de la révolution en Iran et au Nicaragua. Et c'est à partir de cette décennie-là que l'ambiance va un petit peu changer, parce que jusque-là, la production d'énergie était très centralisée et concentrée. Et puis, il y a d'autres discours qui vont apparaître, portés par des associations environnementales, des opposants nucléaires, qui vont défendre une production et une consommation beaucoup plus décentralisée de l'énergie. Et ça, deux collègues l'écrivent, hein, Aurélien Évrard et Romain Pasquier. Les énergies renouvelables ont présenté à ce moment-là la possibilité de sortir d'un système, je les cite, centralisé, monopolistique et technocratique. On y reviendra sans doute.
Ouais, on y reviendra d'autant plus qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas des éoliennes, elles ont été intégrées à la puissance, comme diraient les historiens de l'énergie, à savoir que maintenant, c'est des espèces d'immenses machins qui sont mis offshore, qui en fait sont générés par des grosses entreprises, et donc d'un univers ou d'un imaginaire de petites communautés qui utilisent des éoliennes partout. Par exemple, aux États-Unis, les historiens montrent qu'il y avait vraiment des petites éoliennes dans chaque ranch, il y en avait une. On passe à des espèces de gros conglomérats énergétiques qui visent en fait à produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité pour faire la transition énergétique.
Oui, certains parlent même d'industrie éolienne pour le critiquer, pour critiquer ce gigantisme-là.
Oui, c'est aussi au prisme de cette histoire qu'il faut comprendre la place prise par l'éolien en mer, hein, qui est un petit peu différente, parce que voilà, c'est des projets, mais évidemment, c'est pas moi qui vais aller avec mon petit bateau installer mon éolienne en mer, hein, donc des projets qui sont gigantesques. J'essaye pourtant de ne pas marquer à chaque fois. C'est des projets qui sont gigantesques, et ça montre bien qu'il y a, à partir des années 90, une reprise en main de l'éolien par les industriels et l'État, et qu'on sort un petit peu de cette histoire alternative à une dimension technocratique, centralisée de la production d'énergie par l'éolien.
Alors, peut-être dans un petit style c'est pas sorcier, une éolienne, comment ça marche?
Alors, je veux bien, Sarah, mais à une condition, c'est je veux le bruit du camion. Il faut se mettre dans l'ambiance quand même.
Franchement, il y avait de l'énergie, c'est pas mal.
Alors, vas-y, Jamy. C'est Fred, en fait.
moi, j'y vais. Alors, l'éolienne, ça fonctionne grâce à la transformation de l'énergie cinétique du vent, donc c'est une énergie qui est liée à sa masse et à sa vitesse, en énergie mécanique, donc qui va rentrer en gros dans la turbine, si je puis dire, en fait ça s'appelle un rotor de l'éolienne, puis en électricité.
En fait, c'est toujours le même principe dans l'électricité, hein. L'idée c'est de faire tourner un truc, soit avec de la vapeur d'eau, soit avec du vent, etc. Vous faites tourner en fait dans une bobine de fil de cuivre, ça va créer un courant électrique, puis ensuite ça part dans les réseaux de distribution et puis de transport puis de distribution.
C'est le principe de la dynamo, hein, pour ceux qui ont des vélos.
Et oui, et donc les éoliennes permettent de produire de l'électricité avec une ressource naturelle et inépuisable, le vent, sans produire de gaz à effet de serre. On peut également ajouter que c'est une énergie qui va être produite localement. Hourra, nous sommes sauvés, le changement climatique, il n'y en aura pas. Vrai ou faux? Non. Donc ça a été un peu présenté comme...
Attends, c'est suspense. Oui,
j'avais le cœur qui battait, mais ça a été vite, quoi.
Et pourtant, beaucoup de critiques a commencé. Alors, ça va être un épisode plutôt centré sur ce qui se passe en France. Et en France, on va souvent dire qu'on n'a pas besoin d'éoliennes parce qu'on a déjà une énergie bas carbone grâce au nucléaire.
Ouais, alors c'est pas entièrement faux, puisqu'effectivement, il y a quasiment, je crois, 63% d'électricité en 2022 qui était produit par le nucléaire. Pour avoir quelques chiffres en tête, 11% c'était l'hydraulique et 8,5% l'éolien. Donc on voit que l'éolien est encore assez bas, mais il a quand même pas mal monté ces dernières années. Alors effectivement, il y a notre électricité est massivement décarbonée. Alors après, le débat nucléaire, on rentre pas dedans, mais en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il va falloir électrifier massivement notre économie pour sortir des combustibles fossiles. Et donc, c'est pour ça qu'on table sur un développement éolien, solaire et dans la plupart des scénarios, aussi nucléaire, parce qu'il va falloir produire beaucoup, beaucoup plus d'électricité.
Oui, par exemple, juste, on peut prendre l'exemple de la voiture, on va devoir passer de la voiture thermique à la voiture électrique.
En tant que grande prêtresse de la langue, j'observe que vous employez les mots « il va falloir »,« on va devoir ». C'est une possibilité, c'est un scénario, celui dans lequel se trouve notre gouvernement actuel, en tout cas celui qu'il nous propose d'emprunter. Ce n'est en aucun cas une obligation. Mais c'est intéressant. En tout cas, dans ce modèle de société, si on veut continuer à consommer comme on consomme, si on veut électrifier un certain nombre de nos secteurs, oui, il faudra plus d'énergie, et donc notamment par les éoliennes.
Oui, puis il y a toujours des pièges, hein, qui se cachent là-dedans. Je vous invite à lire un petit peu vraiment les petites conditions tout en bas du contrat, c'est effectivement que passer de la voiture thermique à la voiture électrique, c'est, si aujourd'hui les voitures sont de plus en plus lourdes, hein, on sait que c'est des véhicules qui sont beaucoup plus lourds, par exemple pour les SUV, hein, que les gros modèles des années, dans les années 90, en fait l'être humain n'a pas, disons, triplé ou quadruplé de poids, c'est toujours quelques dizaines de kilos à transporter. Et donc en fait il faut bien comprendre que dans cette, ce qu'on appelle, hein, cette transition écologique avec des guillemets, c'est pas seulement voilà, c'est pas seulement un enjeu de maîtrise de la consommation, de substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables, mais c'est en fait l'idée de décroître cette consommation énergétique.
Ouais, effectivement, c'est pas de remplacer une voiture pour une voiture, mais alors ça, dans les scénarios de RTE, etc., effectivement, ils prennent aussi en compte ces hypothèses de sobriété, alors plus ou moins fortes, mais dans la plupart des scénarios, ils arrivent quand même à l'idée qu'il va falloir quand même faire produire beaucoup plus d'électricité qu'aujourd'hui.
En fait, RTE a pour mission de produire des scénarios sur le mix énergétique français, électrique d'ailleurs, je crois, pour être plus précise.
Et puis tu as parlé du nucléaire, Sarah. Alors nous, on avait fait un épisode de notre podcast sur les imaginaires du nucléaire, hein, qu'on vous invite à retrouver, qui soulève des questions qui sont pas petites, hein. Et puis aussi, on pourra en donner quelques-unes, mais simplement déjà pour citer que par rapport au changement climatique, c'est le Francis Chateauneau qui en parle dans un article, il y a des personnes qui défendent le nucléaire et qui mettent en avant le changement climatique comme un argument désormais en faveur du nucléaire, et puis en disant voilà, c'est une énergie propre, sans ça il n'y aura pas de transition écologique, etc. Et puis la défense du nucléaire a été aussi donc la défense du nucléaire a été réactualisée par l'argument du changement climatique, mais aussi les opposants au nucléaire ont fini par mobiliser aussi l'argument du changement climatique en disant en fait c'est une technologie qui n'est pas viable dans un contexte de changement climatique, ici de réchauffement, en raison des dangers qui sont liés aux inondations, aux canicules, aux sécheresses, etc.
Mais en tout cas, donc comme on disait, c'est que pour continuer dans le futur, il paraît difficile de ne pas avoir recours aux éoliennes en plus du nucléaire, en tout cas dans les scénarios qu'on nous propose aujourd'hui. Et pourtant, au plus haut niveau de l'État, on a vu qu'il y a eu un petit revirement finalement d'Emmanuel Macron sur la question des éoliennes.
Oui, il avait promis en 2017 de doubler les capacités de l'éolien terrestre d'ici à 2030. Et 5 ans plus tard, il reporte cet objectif à 2050 et au contraire va relancer la filière nucléaire.
Ouais, et il faut dire qu'en fait, en France, il faut pas l'oublier, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il y a une chose qui est sûre, c'est que le lobby du nucléaire est très fort et très puissant.
Ouais, alors ce qui est intéressant dans le nucléaire, c'est que les gens à peu près sérieux disent quand même que même si on a une relance du nucléaire, ça va prendre du temps. Construire une centrale, ça prend du temps. C'est plus rapide de construire des éoliennes, même si c'est des projets contestés, etc. Ce qu'il faut aussi, je pense que l'une des clés aussi pour comprendre la position de Macron, c'est la question de l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'il y a un fort mouvement de résistance aux éoliennes. On va le voir juste après, mais il est en partie structuré ce mouvement, hein, par des fédérations, des associations qui proposent même des kits anti-éoliennes. Donc voilà, il y a aussi un problème d'acceptabilité sociale de l'éolien. C'est sûr qu'au fur et à mesure que nos infrastructures de production électrique sont de plus en plus visibles, il y a une opposition qui se crée.
Ouais, il faut dire peut-être qu'il peut y avoir une contestation locale contre l'éolien qui a pu émerger, mais il y a aussi eu des contestations qui sont plus structurées, notamment par des associations pro-nucléaires qui vont aller alimenter ces contestations locales.
Oui, puis différentes formes de contestation. Moi, en préparant cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec mon collègue Aurélien Evrard, qui est lui spécialiste de ces questions. C'est pas du tout mon cas. Et il me rappelait quelque chose d'important, c'est qu'il faut faire attention à ne pas croire que les oppositions aux éoliennes viennent uniquement d'un camp réactionnaire ou d'extrême droite. Moi, je pense à, par exemple, ce que Éric Zemmour déclarait en 2021, on en parlera peut-être un peu plus tard. Il disait, ça ne sert à rien de vouloir sauver la planète si c'est pour ne pas garder la beauté pour nos yeux. Bon, franchement, bravo pour le raisonnement. Et il y a toute une opposition aux éoliennes qui est portée par des gens qui se reconnaissent dans l'écologie et qui mobilisent des arguments environnementaux pour s'opposer à l'éolienne, par exemple maritime. Donc en fait, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est une contestation écologique d'une technologie présentée comme écologique. Ce qui s'affronte là-dedans, c'est à la fois une vision très macro de l'environnement et une vision plus locale. Donc il y a différentes conceptions de l'écologie et de l'environnement.
Alors, en gros, pour résumer, il y a ceux qui peuvent dire on en a pas besoin parce qu'il y a du nucléaire, on peut changer à mort le nucléaire, et ceux qui vont dire on en a pas besoin parce qu'on n'aura pas besoin d'autant d'électricité, ou en tout cas produite différemment, parce qu'en fait on voudrait décroître et modifier les structures sociales. Si on est un social-démocrate comme moi, on pense qu'il faut encore un peu de nucléaire et encore un peu
et puis il y a aussi surtout les populistes qui vont en fait ne rien dire du tout, tout simplement dire on veut pas de cette mocheté là, oui. Mais ne jamais présenter d'autres solutions en faisant croire en fait que l'énergie arrive comme ça par l'opération du Saint-Esprit.
Et donc, bah, peut-être qu'on peut examiner un certain nombre de critiques. Notamment, là, on va avoir plutôt des critiques qui viennent du camp plutôt réactionnaire dans un premier temps. Et la première chose, c'est le fait que bah, les éoliennes, elles ne sont pas vraiment neutres en carbone, malgré ce qu'on pourrait prétendre.
Bah c'est vrai, hein, une éolienne, ça émet du CO2, alors pas au moment où elle fonctionne, puisque à ce moment-là, elle est neutre en carbone, ça c'est vrai. En revanche, forcément, pour sa construction, on va avoir besoin de CO2. Néanmoins, selon l'ADEME, sur l'analyse du cycle de vie des éoliennes, donc de sa construction jusqu'à son démantèlement, en France, donc l'éolienne terrestre pardon, émettrait en moyenne 12,7 grammes de CO2 par kilowattheure. L'éolienne maritime serait à 14,8 grammes, donc tout ça, ces chiffres ne vous évoquent probablement pas grand-chose, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 40 fois moins que le gaz fossile et 65 fois moins que le charbon. Donc c'est plutôt avantageux quand même d'un point de vue émission carbone.
Et seul le nucléaire va se situer à peu près dans la même tranche, hein, entre 4 et 12 grammes de CO2. Et peut-être dire aussi que cet impact carbone des éoliennes va dépendre fortement de leur durée de vie, mais aussi de la distance de transport des pièces. Ça dépend d'où on achemine les différentes pièces.
Sachant qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup fabriquées en France.
Une autre critique, ça va être celle de la consommation de terres rares par les éoliennes.
Ouais, alors ces terres rares, elles sont appelées comme ça, mais c'est pas parce qu'elles sont rares, c'est parce que en fait, il va falloir excaver, creuser beaucoup, extraire beaucoup de terres pour extraire un tout petit peu de ces terres rares qui vont servir elle aussi un petit peu à la construction de certaines éoliennes.
Oui, c'est ça, ça va être en fait, hein, c'est des éléments métalliques, mais par exemple, la consommation de terres rares sur le secteur éolien reste assez faible, et c'est notamment l'utilisation d'aimants pour l'éolien en mer. Sur les éoliennes terrestres, on est à peu près à 6% d'éoliennes terrestres qui en utilisent. Donc, bien sûr, c'est un enjeu, mais qui reste assez minoritaire.
Oui, une petite partie des éoliennes, tu le dis, Sarah, mais plus largement, il y a le problème de cette course vers les matières minières. Il y a un livre de la journaliste Célia Isoar qui a écrit sur le sujet. Elle cite à un moment donné quelque chose qui est assez frappant d'un géologue qui s'appelle Olivier Vidal et qui dit qu'on va extraire en 30 ans autant de métaux qu'au cours de toute l'histoire de l'humanité. Donc ça ne concerne pas bien sûr seulement les éoliennes, hein, on l'a dit, hein, les composants qui se trouvent dans les terres rares bah, servent à beaucoup de choses, mais ça montre bien que bah, voilà, il faut une décroissance de la consommation énergétique, rationaliser les usages et les besoins, parce que sinon en fait on va pas du tout s'en sortir.
Moi, je vais faire mon techno-optimiste de service. Alors, le bouquin s'appelle La Nouvelle Ruée Minière. Effectivement, il est hyper intéressant, mais en fait, il participe avec d'autres livres à nous rappeler que tout ce qu'on a décrit comme vert, un peu naïvement pendant des années, les éoliennes, le photovoltaïque, etc., en fait, ce n'est pas vert. Ça a toujours un impact d'extraction, de transport, etc. Mais il faut aussi tout de suite rappeler qu'en fait, c'est parfois cet impact est moindre que l'extraction des énergies fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz, quoi, qui en fait sont aussi des processus d'extraction très très lourds et très impactants.
Et ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que ces terres rares, elles sont très peu extraites chez nous. Elles sont oui. Pour la plupart, en tout cas les terres rares, extraites en Chine. Et c'est ça qui pose aussi problème, parce qu'on va délocaliser, invisibiliser encore une extraction qui est extrêmement polluante.
Et un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit bah voilà, qu'il faut consommer moins d'énergie, etc., bah c'est pas seulement parce que ce serait vertueux sur le plan environnemental, c'est parce qu'il y a aussi un lien entre le niveau de consommation et puis la manière dont tout ça est organisé. Il y a un couplage entre niveau de consommation et centralisation ou décentralisation du système énergétique. Plus la consommation est élevée, bah en fait, moins on a de chances, parce qu'il y a des besoins qui sont énormes et colossaux, moins on a de chances de faire advenir un modèle énergétique bah, qui va être décentralisé, coopératif et beaucoup plus démocratique. Donc voilà, il y a aussi un argument démocratique à faire avancer, à faire comprendre dans l'idée que demain et peut-être même dès ce soir le plus vite possible, pour ça on va débrancher les multiprises là, Sarah, il faut bah, consommer moins d'énergie.
Alors une autre critique importante, ce serait que les éoliennes seraient une menace pour la biodiversité et notamment pour les oiseaux. Et donc il y a une étude qui a été menée en 2017 par la Ligue de protection des oiseaux sur l'impact donc, du parc éolien français sur l'avifaune. Et la conclusion, c'était que la mortalité des oiseaux dues aux éoliennes est relativement faible lorsque les projets évitent des secteurs présentant de forts enjeux avifaune.
Alors, avifaune, hein, les oiseaux.
Les oiseaux,
pour,
exactement.
Pour les intimes.
Et donc, il faut éviter, par exemple, les zones protégées comme les zones Natura 2000 ou éviter les zones où sont présents les grands rapaces ou les haltes migratoires. Et dans les faits, pour l'instant, il n'y a pas encore d'interdiction là-dessus. Et puis, on peut aussi s'intéresser donc, à la biodiversité marine, puisque maintenant, on a des éoliennes en mer. Et là, pour l'instant, sur l'impact vraiment sur la biodiversité marine, on est dans une phase où celle-ci est encore en chantier, enfin sur les impacts réels.
Oui, alors après, l'autre élément qui est tout le temps dit, c'est l'intermittence. C'est de dire, vous savez, l'argument de dire, bon, bah, en fait, le photovoltaïque et l'éolien, c'est super, mais ça produit de l'électricité que quand il y a du vent ou du soleil. Alors ça, il y a plein de travaux là-dessus qui montrent comment effectivement on peut gérer cette intermittence. Alors le gros problème, c'est le stockage de l'électricité, qu'on a encore beaucoup de mal à faire avec les batteries, avec les stockages grâce à des systèmes de pompe, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les scénarios, par exemple, de négawatts, eux, ça oblige cette intermittence, effectivement, en grande, qui monte dans le mix électrique, à repenser complètement la société. Donc, par exemple, il va falloir lisser la consommation d'électricité dans le temps. Donc, c'est par exemple faire tourner votre machine à laver la nuit plutôt que la journée pour pas avoir des pics de consommation auxquels on ne pourrait pas répondre.
Et alors, juste pour dire, un négawatt, c'est une association qui défend un scénario de mix énergétique 100% renouvelable et sans le nucléaire pour le coup. Et donc, cette intermittence qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs variabilité, parce qu'en fait, les éoliennes, il n'y a pas de bouton on, off, et elles tournent la plupart du temps, mais plus ou moins fort, etc. Et surtout, en fait, dans un pays comme la France où on a par exemple aussi beaucoup de barrages hydroélectriques, il y a un moyen de prendre le relais au moment où par exemple on va avoir un peu moins de vent à un moment donné.
Oui, il y a d'autres critiques aussi qui sont mises en avant. Je l'évoquais tout à l'heure un peu en citant Éric Zemmour sur l'intégration au paysage. Hein. Donc, c'est des arguments qui sont mis en avant parce que ça va venir dégrader les paysages. C'est souvent un argument d'ailleurs qui est porté plutôt par l'extrême droite hein, au nom de l'idée d'une nature immuable et qui serait salie par ces champs d'éoliennes. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que ces paysages-là, de toute façon, ont toujours été façonnés par des activités humaines, par exemple des activités agricoles. Donc l'idée d'une nature intacte qui serait à préserver parce qu'elle n'aurait jamais été altérée ou changée, en fait, c'est un argument qui, là, ne résiste pas à l'épreuve des faits.
Alors, quand même, ce qu'on peut noter, c'est que ces éoliennes, elles sont très, 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 très grandes. C'est pas du tout des petits projets artisanaux, comme on pouvait le dire au début, et que ça a quand même un impact important sur le paysage. Et par ailleurs, elles ne peuvent pas être implantées partout en France parce que ça dépend de comment le vent souffle à ces endroits, et donc elles sont très regroupées à certains endroits, et donc on y reviendra sans doute après, mais il y a un problème d'acceptabilité de ces projets aussi parce qu'ils n'ont pas été pensés avec les populations qui vivent là, et dont on peut penser, enfin trouver totalement légitime qu'elles les refusent parce qu'elles n'ont pas été consultées. Donc je veux juste revenir sur cet argument du paysage qui est effectivement aujourd'hui un argument principalement porté par l'extrême droite, par des discours assez populistes et assez nauséabonds, mais pas que. Enfin, il faut se mettre à la place des gens qui les ont et qui n'ont pas été consultés.
Oui, et juste petite pour dire quelques mots de la législation qui existe. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de construire une éolienne à moins de 500 mètres d'une habitation. Normalement, il y a une étude d'impact sur les paysages qui est obligatoire en amont du projet. Et à la fin de vie, les exploitants ont l'obligation de démanteler l'éolienne. Donc, il y a une sorte de réversibilité de l'impact sur le paysage. Alors, souvent, il y a encore un peu du béton qui va rester dans la terre, mais il est montré que la nature va pouvoir se redévelopper autour. Donc, voilà. Donc, il y a cette question du démantèlement qui est importante. Et comme tu disais aussi, Sonia, en fait, il y a eu aussi des oppositions qui se sont créées dans des territoires où on a développé massivement l'éolien avec peut-être un manque de pensée, déjà de l'aménagement du territoire global sur comment est-ce qu'on développe nos infrastructures d'électricité sur le territoire de manière globale, et puis à l'intérieur de chaque territoire, comment on réfléchit pour qu'il y ait une cohérence, qu'il n'y ait pas des territoires qui soient surchargés contrairement à d'autres. Et d'ailleurs, parfois, ça peut bien se passer justement quand il y a une forme de concertation. Il y a un exemple en Charente-Maritime où il y a le parc éolien d'Andilly-les-Marais, où ça a été un vrai succès parce qu'on a vraiment inclus la population locale en amont, mais également dans la gouvernance et même dans le capital du parc.
Alors, qu'est-ce qu'on entend comme autre argument? C'est souvent, il y a celui de la pollution sonore.
Ouais, du bruit. Bah, alors, en France, il est interdit de construire une éolienne à moins de 500 mètres d'un logement. Néanmoins, alors je ne peux pas en témoigner, je n'ai jamais été à moins de 500 mètres d'une éolienne, je n'ai jamais vécu près d'une éolienne, mais il semble que ce bruit ne soit pas très fort, mais très lancinant et puisse avoir un effet totalement obsessionnel sur les gens.
Et en revanche, oui, vous qui nous écoutez, vous ne l'entendez sans doute pas, mais il y a
une manifestation anti-éolienne
en bas. Et c'est, alors, je ne sais pas comment ils font pour nous écouter alors qu'on ne l'a pas diffusé, mais en tout cas, il y a des slogans un petit peu durs à ton égard, Sarah. Je suis désolé. Mais tout va bien se passer, on va négocier.
Et donc là, on a vu un peu les arguments, on va dire, qui sont souvent tenus par un camp plutôt réactionnaire, mais il y a aussi certains arguments qui vont venir plutôt de la gauche, plutôt de mouvement un peu décroissant. Et peut-être qu'on peut commencer par une critique donc de Jean-Baptiste Fressos, donc qui est historien, dans son livre Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie.
Ouais, alors en fait, bon, il montre plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc d'abord, il montre que pour l'instant, il n'y a pas encore à l'échelle globale de substitution des énergies renouvelables aux énergies fossiles. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'accumuler les énergies parce qu'en fait, on a besoin en permanence de plus d'énergie. Donc certes, il y a un développement de solaire et du photovoltaïque, mais pour l'instant, ça ne se substitue pas encore, ça ne remplace pas encore des unités d'énergie fossile. Ça peut arriver à le faire. Alors, les optimistes vous diront, mais regardez les chiffres, il y a une espèce de croissance incroyable, presque exponentielle, du photovoltaïque et de l'éolien. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça peut arriver, mais c'est pas encore le cas. Et la deuxième critique, qui est un peu sous-jacente, mais qui est sous-jacente à l'épisode depuis le début, c'est de dire, en fait, la transition écologique, c'est devenu, je crois qu'il dit, l'idéologie du capital au 21e siècle. Il dit, en fait, une espèce de truc massif de la puissance où il va falloir beaucoup d'électricité pour continuer à alimenter le même monde matériel dans lequel on est. Et en fait, Fressos, il dit un truc assez simple. Il dit, bah, faudrait peut-être aussi, on l'a dit tout à l'heure, hein, s'interroger sur nos usages. Qu'est-ce qu'on fait de cette électricité? Donc, il dit pas qu'il faut pas d'éolienne ou photovoltaïque. Il dit, il faut évidemment produire plus d'énergie renouvelable, mais il faut aussi qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité.
Ouais, je te rejoins Rémi, on en revient effectivement à une question politique hein, dont on parle dans cet épisode. C'est, alors, est-ce qu'on veut une transition écologique? Je mets ce terme entre guillemets, vous ne l'avez pas vu, parce que c'est quand même une notion qui est floue et ambiguë. Donc est-ce qu'on veut une transition, un changement qui est pris en main par des experts, l'État, le secteur privé, de façon très centralisée, ou est-ce qu'on veut une transition qui est beaucoup plus décentralisée et démocratique? Et on en parlait tout à l'heure, hein, dans les années 90 2000, bah, les énergies renouvelables ont changé d'échelle avec un engagement de l'État et des industriels. Et aujourd'hui, l'argument démocratique revient un petit peu. Bon, par exemple, il y a des cas où on va remunicipaliser la distribution d'eau. Mais donc, on voit bien qu'il y a quand même une question derrière démocratique. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus. Hein. C'est pas simplement de dire est-ce qu'on change la manière dont l'énergie est produite. Donc, on passe du fossile au renouvelable. Derrière, il y a une question démocratique. Qu'est-ce que cela fait aux décisions qu'on prend? Qui prend les décisions au nom de quoi?
Ouais, moi, je voudrais citer un exemple encore avéronais, l'Aveyron dans mon cœur.
Ah, mais c'est écrit sur ton... Ouais, c'est, bien, c'est écrit sur ta veste. Hein, donc
c'est un exemple d'opposition citoyenne qui s'est montée autour de Saint-Victor, où il y a eu un projet à la fois de transformateur au milieu des années 2010 et aussi un projet d'éolienne. Donc ce transformateur devant accueillir l'énergie qui venait de ces nouvelles éoliennes notamment. Et c'est absolument scandaleux quand on voit la manière dont ça s'est fait. Donc d'abord, Saint-Victor, c'est un tout petit village où le maire a pris la décision tout seul, sans en parler jamais à son conseil municipal, donc ce qui est scandaleux parce qu'on lui avait dit les industriels, et on peut imaginer hein, quand même le décalage de pouvoir entre les industriels rompus à cet exercice et un petit maire d'un petit village de peut-être même pas 1000 habitants, et quand je dis 1000, je suis sans doute très optimiste. Donc, il prend la décision tout seul. Ensuite, le conseil municipal, le nouveau conseil municipal après les élections qui vire ce maire, refuse fermement le projet. La propriétaire du terrain refuse de vendre son terrain. Enfin bref, il y a une opposition complète et pourtant le projet, malgré l'opposition, est en train de se réaliser. Et donc, les arguments principaux des opposants à ce projet, c'est de dire que d'abord, de critiquer le gigantisme de ce projet qui n'a rien à voir avec le territoire, de dire que ce projet ne va pas profiter au territoire, de dire que par ailleurs il y a un mécanisme de compensation financière qui n'est pas adapté puisque c'est souvent uniquement les propriétaires des terrains qui vont être indemnisés et pas une indemnisation collective. Ils vont aussi critiquer le contexte global de la production énergétique et de la mise en concurrence internationale via un grand marché européen qui pareil ne permet pas en fait de comprendre à qui va cette énergie. Enfin bref, ils se sentent un peu les vaches à lait du territoire qui produit, qui donne l'énergie au détriment de leur propre qualité de vie.
Eh ben Sonia, si tu veux te lancer dans la politique locale en Aveyron, là c'est voilà. Sonia, tu me dis Aveyron, je te réponds Brésil.
Oh.
Voilà, voyageons un petit peu. Voyageons un petit peu. Non, mais effectivement, tu le
frère
disais,
de combat.
Tu le disais, Sarah. C'est un épisode dans lequel on a parlé bah, du cas français, mais évidemment, le rapport aux énergies renouvelables et à la filière éolienne n'est pas du tout à concentrer seulement en France. Et il y a effectivement au Brésil, par exemple, dans l'État du Rio Grande do Norte. Alors désolé pour la prononciation. C'est un endroit qui concentre la moitié des parcs éoliens du pays. Les projets se multiplient. Et en fait, comme il n'y a pas de régulation adaptée, c'est un développement rapide qui provoque toute une série de problèmes sociaux et environnementaux. Il y a des groupes français qui sont impliqués là-dedans. Par exemple, il n'y a pas de distance minimale par rapport aux habitations.
Les gens semblent beaucoup souffrir du bruit.
Et les autorités locales vont délivrer des licences pour attirer les investissements. Donc voilà, on en revient quand même à cette question politique.
Et on peut noter que 15% de la production d'énergie de cette région brésilienne est détenue par des groupes français.
Voilà, il y a une question de pouvoir là-dedans. En fait, quelle est la capacité concrète de petits agriculteurs et agricultrices à s'opposer à des grands groupes. Donc voilà, il faut en permanence dans la, ce qu'on appelle la transition écologique ramener la question du pouvoir et des inégalités.
Et se poser la question des enjeux, est-ce qu'on est vraiment dans une industrie écologique ou dans une industrie qui génère de l'argent? Et à qui profite cet argent?
Bon allez Sonia, on fait un ticket, Brésil, Aveyron, on y va.
Non, et peut-être pour conclure, c'était un très bon film qui s'appelle Asbestas et qui en sous-main parle un peu de toutes ces questions, aussi des questions des néo-ruraux, des rapports entre agriculteurs et industriels, etc. On vous le conseille. Et donc pour conclure, dire voilà que tout est toujours un peu plus compliqué qu'il en a l'air. Alors certes, peut-être que les éoliennes, comme disait d'ailleurs Rémi, hein, quand on va comparer à l'extrême des énergies fossiles, elles vont marquer quand même un certain nombre de points ou par rapport au coût peut avoir la construction d'une nouvelle centrale nucléaire ou voilà la question du traitement des déchets nucléaires où on se pose pas mal de questions. Donc les éoliennes peuvent marquer quelques points mais elles ne sont pas exemples d'un certain nombre de problématiques. Merci à tous et puis on se retrouve très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.